Il y a 3 ans, j'ai décidé de m'inscrire au conservatoire pour apprendre à lire et jouer la musique. Cette année, j'ai pu réaliser l'objectif que je m'étais fixé, jouer dans un orchestre d'harmonie. Depuis le mois de septembre, je joue du bugle, un cousin de la trompette, au sein des Halles, l'ensemble orchestral de Lima. À l'occasion de la fête de la musique, je vous emmène avec moi découvrir de l'intérieur la vie de cet orchestre. Éol, un orchestre dans le vent, épisode 2, la surprise du chef. Lorsqu'on commence un documentaire, on part avec une idée du sujet et de la façon de le traiter. Le documentaire, contrairement à la fiction, c'est la vraie vie, et dans la vraie vie, il se passe toujours des choses imprévues. L'imprévu de mon documentaire, c'est le chef, Gilles Parillaud, qui un soir de janvier, où nous fêtions les conscrits de l'orchestre, nous a fait une annonce.
Alors, avant qu'on continue de trinquer, j'ai quand même quelque chose à vous... Je vous avais dit la semaine dernière que j'avais une déclaration, en gros, à faire pour cette fois-ci, qui concerne l'année prochaine. Alors, c'est pas très facile ce que je vais vous dire, mais bon... Je suis en réflexion, ça a été un petit peu long et difficile aussi pour moi, mais je suis obligé de vous dire quand même qu'à partir de l'année prochaine, je ne serai plus à la tête des Halles. Que ça fait 26 ans que je mène l'orchestre et que j'ai... Le moment est venu pour moi de passer la main. Voilà. Bon, c'est la vie qui est comme ça. Les gens passent, la musique, elle va rester, j'en suis certain, parce que l'esprit Halles, il est là, il va rester... J'ai œuvré pour que le successeur, mon successeur, soit quelqu'un de bien, à mes yeux. Après, vous aurez à juger. Bon, c'est pas très compliqué. Vous allez faire sa connaissance bientôt. Il s'agit de Fabien Bernoux. C'est lui qui va prendre ma suite l'année prochaine. Je suis assez content quand même, parce que Fabien est quelqu'un que je connais maintenant depuis quelques temps. Musicalement, il n'y a aucun problème, aucun souci. Il est au top. C'est un très, très bon musicien. Humainement aussi, je pense qu'il va arriver... à se fondre et à coller à l'ambiance, je pense, des Halles. Et ce que j'aimerais aussi à terme, c'est que cette ambiance qui est là, qu'on connaît tous, grâce à lui aussi, puisse être diffusée un petit peu aussi au niveau du conservatoire, puisque du coup, c'est lui qui va tenir tous les orchestres. Et bon, ça passe, encore une fois, ça m'attriste un peu de vous quitter quand même. Donc l'année prochaine, ça se met en place. On a encore quand même 2 concerts devant nous, hein, donc tout n'est pas fini. Donc je bois à la santé des Halles, à la santé de tous les musiciens, et puis que continue encore la musique et que continue les Halles le plus longtemps possible. Voilà, à votre santé à vous.
Alors, je m'appelle Gilles Parillaud. Je suis professeur au Conservatoire de Villefranche depuis déjà une bonne vingtaine d'années et je m'occupe actuellement de l'ensemble orchestral de Lima et Halles depuis aussi une bonne vingtaine d'années.
Alors professeur de quoi ?
De saxophone.
Non.
Ah, pardon.
C'est important de préciser. Et comment s'est passée la rencontre avec Halles, alors l'ensemble orchestral de Lima ?
Alors, ce n'était pas une rencontre, en fait. Historiquement, moi, je suis responsable de l'orchestre de Lima depuis 1992. À l'époque, quand j'ai repris l'orchestre, il n'y avait que des jeunes, des élèves d'un niveau jusqu'à une 5e, 6e année d'instrument, 7e peut-être. Et c'était un orchestre qui était dépendant complètement de l'école de musique de Lima. Parce qu'à l'époque... Les écoles étaient encore séparées entre Lima et Villefranche. Donc j'ai mené cet orchestre pendant quelques années et au bout d'une dizaine d'années, petit à petit, les musiciens se sont étoffés. J'ai vu arriver quelques adultes. Et puis de fil en aiguille, le niveau a un petit peu monté aussi parce que j'ai récupéré des élèves un petit peu plus grands, un peu plus aguerris. Et Halles, en fait, est né de cet orchestre-là. Ça n'a pas été une rencontre, c'est vraiment une continuité.
Alors pour un orchestre d'harmonie composé exclusivement d'instruments à vent, Halles, c'était bien trouvé. L'acronyme était heureux.
Ah bah, y a une anecdote là-dessus. Nous avions été joués au parc La Croix-Laval. en extérieur. Nous avions été invités par, à l'époque, c'était l'adjoint à la culture de Lima, M. Olivier Desmules, qui nous avait invités à aller jouer au parc La Croix-Laval, puisqu'il en était le directeur. Et on avait joué dans une grange, voilà, tout se passait très bien, et puis... Le vent s'est levé, il y a eu une bourrasque, enfin vraiment quelque chose d'assez puissant et soudain. Et donc ça a été un peu la panique forcément sur le moment. Et puis voilà, alors le Éole, le dieu des vents, la correspondance s'est faite assez rapidement. Éole nous a un peu enquiquiné ce jour-là. Et puis Éole, tiens, ça fait Ensemble Orchestral de Lima, un orchestre à vent. Ben voilà, c'était, le nom était trouvé. Presque naturellement, enfin en tout cas, voilà, c'est la nature qui nous a amenés à trouver ce nom, en fait.
Alors comment on nomme de façon très précise la fonction que vous occupez à Éole ? On dit quoi ? Le meneur, le chef d'orchestre, le chef d'harmonie ?
Alors il y a plusieurs termes. Il y a un terme très pompeux, on peut dire directeur artistique. Le directeur artistique, c'est lui qui gère le programme, qui choisit les morceaux, qui choisit le style de musique. Mais en même temps, je suis aussi chef d'orchestre, c'est-à-dire je dirige l'orchestre, évidemment. C'est moi qui suis devant les musiciens et qui les dirige. Bon, en même temps, la fonction, elle est aussi au-delà, parce que sur un orchestre d'amateurs comme à Lima, un orchestre d'élèves aussi, on doit gérer tous les à côté, c'est-à-dire aussi bien le rangement des salles, alors je suis aidé évidemment, mais l'ouverture de la salle, la gestion des partitions, donc voilà, j'ai une casquette multiple. Enfin, le vrai terme, si on peut être très simple, c'est chef d'orchestre, tout simplement. Directeur artistique, mais aussi chef d'orchestre.
Pour être franc avec vous, avant cette première expérience en tant que musicien au sein d'un orchestre, le chef d'orchestre, pour moi, ça ressemblait un peu à ça.
C'était très bien. C'était très bien. Non, c'est moi. Bon, vous, c'était bien là-bas. Vous, c'était bien... Enfin, c'est comme ça. Dites-moi, vous, on ne vous a pas entendu. On ne vous entend jamais. Hein. Vous n'arrêtez pas de bavarder. Faites attention. Faites très attention. Hein. Écoutez, j'ai une conception personnelle de l'ouvrage. Ce n'est pas un citron pâle, ce n'est pas un orgueilleux, de l'orgueil, bon sang. Bon sang. Enfin, c'est de la bouillie, tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors, reprenons. On dit 17. Hop. Alors.
Oui, un petit coup, les...
En fait, dans la réalité, ça ressemble plutôt à ça.
Sans que ça soit trop piou-piou-piou. Alors, flûte, clarinette, sax. Cinquième mesure, après l'intro. Envie de décaler un peu le forte, qui est à la mesure 12. Il arrive sur le premier temps et en fait, ça fait moins d'effet. Voilà, deuxième croche, on fait. Là, on en faisait deux fois. On faisait deux fois forte. On va essayer de faire plus encore un coup. Encore une fois. Essayez d'être encore plus court que ça, si vous pouvez. Vraiment, et puis pensez-le par deux mesures. Comme ça. 1, 2, 1. Et là, vous arrêtez pas. Vous arrêtez pas de causer.
Et Éole, c'est un groupe, alors on a dit hétérogène en niveau, mais qui est aussi hétérogène en âge, puisque ça va de préadolescent jusqu'au doyen qui a passé les 9 décennies. Ouais. Comment on gère aussi un groupe comme ça, qui est très hétérogène en âge, avec d'un côté des gamins, des gamines, et puis des anciens
Il n'y a pas à gérer. Les choses se font, les choses se passent. Et encore une fois, bon, je veille à ce que chacun ait sa place. Voilà, moi, je veille à ça. Après, Les gens ont aussi des relations interpupitres, entre pupitres, entre instruments. Ils arrivent à se connaître. Il y a des choses que moi, je ne gère pas, que je ne vois pas même. Voilà, il y a des liens qui se tissent. Et curieusement, enfin, je ne sais même pas si c'est curieux. Je crois que c'est... dès l'instant où tout le monde fait la même chose... au même moment, c'est ça aussi le principe d'un orchestre, ils sont un peu tous dans le même bateau, et il y a une certaine, je dirais pas une solidarité qui se met, mais voilà, on est tous embarqués dans le même truc, qu'on soit de 7 à 77 ans, comme dirait la chanson. Tout se passe comme ça, parce qu'il y a quand même un élément qui est rassembleur et fondateur de tout, c'est qu'on fait de la musique ensemble, quoi. Et après, les âges s'effacent. Et alors, ce qui est marrant, après, c'est qu'il y a des anecdotes, c'est rigolo, parce que, il y a, par exemple, nous parlons de Joe Poulet, qui a passé 9 décennies, qui arrive à envoyer, avec un nouvel élève arrivant, ce nouvel élève du conservatoire, qui devait avoir 12-13 ans, qui se tourne vers Joe, puis il lui dit « Mais c'est qui ton prof, toi ?» Voilà, des choses comme ça. Les anciens sont très contents de voir venir des jeunes, et puis les jeunes ont une autre vision, c'est-à-dire qu'ils se sentent... à l'intérieur de quelque chose, ils font partie d'un groupe, ils ne sont plus à l'école. Et c'est ça aussi, il y en a beaucoup qui ont un petit temps d'adaptation, parce que des fois, ils se prennent à l'orchestre, ils viennent à l'orchestre, un orchestre de conservatoire, donc c'est obligatoire sur un trimestre, etc. Et quand, c'est quelque chose qui leur est imposé, et les enfants, forcément, ils sont très scolaires, hein, mais ils s'aperçoivent que c'est pas scolaire, dans l'orchestre EOL, et puis je suppose dans plein d'autres, hein. Et on fait de la musique ensemble. Et c'est ça qui fédère, en fait, les âges. Et qui fait que les gens... on essaye aussi, quand même, d'avoir des moments hors répétition, avant. Enfin, il y a les pauses, des choses comme ça. Et puis, puis c'est vrai qu'on a de la chance, peut-être un peu à Lima, d'avoir des gens qui sont pas... qui accueillent les nouveaux, qui sont là à dire un mot, à venir... s'intéresser, s'inquiéter, est-ce que tu vas bien, est-ce que tu arrives à jouer tes partoches, ou alors
moi j'ai rassuré pas, aussi,
comme ça, voilà, qui rassure peut-être aussi, il dit mais non, t'inquiète pas, moi c'était pareil, quand je suis arrivé j'étais complètement perdu, enfin bon, ça a toujours été une force d'Eol de toute façon, parce que c'est aussi un peu pédagogique, il y a, en Angleterre par exemple, en Allemagne ou dans des orchestres un petit peu, enfin dans d'autres pays, on met tout le monde sur les rangs, on appelle ça, on met tout le monde sur les rangs, t'as les grands, t'as les petits, et puis les petits se forment. Alors, il y a des moments où il faut que les petits aient des cours individuels, mais ils se forment comme ça à l'aune des grands et des plus anciens qui leur expliquent. Et puis, eux, ça les valorise. Les jeunes, ça les valorise parce qu'ils sentent... voilà. Et puis, comme ils progressent souvent très vite, des fois, ils dépassent. mais ça se passe toujours très bien.
Alors, les concerts. Ça, c'est la partie visible de l'iceberg. C'est là où on est en représentation. Et puis, il y a toute cette partie cachée. Chaque semaine, chaque vendredi soir, de 19h à 21h, les répétitions, qui, ça porte bien son nom. Parce qu'il y a quelque chose qui revient comme ça, cyclique, chaque semaine, où on répète les morceaux, il y a des choses. Comment, de votre place de chef d'orchestre, se fait ce travail de répétition, et comment on l'aborde, et qu'est-ce qu'on met au travail?
Alors, tout dépend de la difficulté des pièces, tout dépend du concert qui est envisagé, tout dépend de la difficulté, évidemment. Plus c'est difficile, plus on va être amené à rabâcher et à recommencer un travail. Après, je m'attache à essayer de faire un travail exclusivement musical, c'est-à-dire d'écoute des uns des autres. Je le dis souvent, mais écoutez-vous quand vous jouez. Parce qu'en théorie, normalement, chacun arrive avec sa partition travaillée. Ou plus ou moins dans les doigts. Et ce qui est bien à faire en orchestre, c'est d'aller au-delà. Thank you.
des nuances, un peu piano, un petit plus, ça sera plus. Plus ça sera, plus ça sera joli, plus tout ce que vous voulez. Alors, à la mesure 41, chez les flûtes, clarinettes aussi, mais j'ai deux croches. J'entends bien les premiers, mais moins les deuxièmes, je sais qu'elles sont l'octave au-dessous. Et si vous pouviez essayer de les faire ressortir un petit coup, on peut faire, je sais pas, à B, ceux qui ont le thème. Avec la petite levée, tiens. D'ailleurs, des flûtes et des clarinettes. Donc, la levée avant B. Après, 1, 2, 1. Ne diminuez pas la note derrière l'accent. Enfin, en tout cas, pas trop. La levée de B, c'est les doubles qui sont avant B. Je compte 1, 2, 1. 1, 2, 1.
Dans le travail de répétition, il y a plusieurs phases. Le début, moi, ce que j'ai repéré, il y a la phase du déchiffrage, c'est-à-dire on découvre le morceau. Et très vite, ça veut dire qu'il faut qu'on le travaille à la maison.
Oui, c'est ça, oui. Quand on commence une nouvelle pièce ou un nouveau programme après un concert, donc il y a une grosse séance de déchiffrage, on lit, on fait une lecture, ce que j'appelle, on appelle ça une lecture, hein, c'est le terme. J'essaye de faire lire tout le programme sur une répétition. Après, quand tout dépend des soucis qu'il peut y avoir, on peut reprendre à un moment donné ou rester un peu plus sur une pièce. Mais au départ, ce qui est important, c'est de lisser toute la pièce, de la voir et toute la faire. Ça, c'est le travail de déchiffrage. Après, il est évident qu'il y en a beaucoup qui sont en déchiffrage sur beaucoup de répétitions. Mais... bon, c'est le lot. Après, les choses quand même arrivent à prendre forme au bout d'un moment, quoi. C'est certain.
Moi, de ma place, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une avancée progressive. À chaque fois, on va rechercher de plus en plus dans le détail, de plus en plus dans les nuances. L'idée d'aller chercher aussi de faire un tout, de s'effacer individuellement. Et, alors, que je disais, s'écouter. Mais au-delà de ça, c'est trouver ce moment où on est ensemble.
Oui, parce que c'est jamais fini. Hein,
On est sur du subtil, là. On n'est pas sur quelque chose de mesurable, de quantifiable.
Disons qu'il y a des étapes, effectivement. Il y a la mise en place, on essaye de mettre les notes, on essaye de mettre les rythmes en place, et puis après, il y a la musique qui parle, quoi. Alors, au départ, c'est vrai qu'on est un petit peu dans la mise en place, dans le solfège. En gros, on essaye de mettre ces notes en place, ces rythmes en place. Quand je sens que le niveau augmente, et qu'il y a des choses qui... Là, je vais un petit peu plus dans le détail de la nuance et de la musicalité, tout simplement. Dès l'instant où on arrive à avoir une nuance subtile, c'est-à-dire une amplitude entre ce qu'on peut appeler les fortés et les pianos, qu'on ne joue pas au mezzo forte tout le temps. Il y a des moments où je sens que je peux aller plus loin, et il y a des moments où c'est le contraire. Et ce qui est important, c'est que sur une pièce, tout le monde ait pris la mesure de ce qui peut se passer, mais le travail de musicalité, le travail d'écoute, tout ça, c'est quelque chose qui est vraiment... très difficile et très long à mettre en place. Et c'est un peu frustrant aussi, des fois, je le reconnais, parce qu'on s'arrête à cause d'un bécard, un bémol, un rythme raté, des choses comme ça, il n'en faut pas beaucoup pour mettre tout par terre. Mais quand, encore une fois, la sauce, elle prend, on peut arriver à faire des choses intéressantes.
Il y a un concert mythique chaque année à Éole, enfin, qui est attendu par, à la fois par les musiciens puis par les habitants de Lima, c'est le concert du Nouvel An. Qui est une institution à l'intérieur de l'institution. Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'histoire de ce concert du Nouvel An et comment on l'aborde chaque année?
Alors, ce concert du Nouvel An, oui, c'est effectivement, ça m'a dépassé. Ça m'a complètement dépassé, cette histoire, en fait. Parce que, bon, étant sur Lima, répétant sur Lima, j'avais trouvé utile, puis normal, en tout cas, d'animer un petit peu ce qui peut se passer dans la vie de la commune de Lima. Et une année, j'avais proposé, comme ça, de faire un concert pour les vœux du maire. Bon, le nouveau du maire, ça se trouve être le Nouvel An. Et puis, je dis, Nouvel An, pourquoi pas, on va faire de la musique classique et des transcriptions de pièces de Strauss, des valses, des polkas, des choses qui passent très très bien en général. Et il s'est trouvé que la première édition, on n'était pas à la salle des fêtes. Non, nous étions au gymnase communautaire. Et ne sachant pas ni les uns ni les autres comment on pouvait organiser le truc, on a joué au milieu d'un brouhaha. Mais alors, on était au marché couvert. dans le même style. C'est-à-dire, le maire a fait ses discours. Après les discours, il y a... Il y a le pot, les verres de l'amitié, évidemment, avec un petit cocktail. Alors, ça mangeait, ça buvait. Puis nous, on était là au milieu avec un petit cercle de gens qui nous écoutaient. Alors, c'était, pour nous, ça n'a pas été très, très glorieux. Mais en fait, la sauce, elle a très vite pris parce que les peu de gens qui ont été là et qui ont écouté, ils trouvaient ça super. Voilà, c'était, encore une fois, la prestation n'était ni bonne ni mauvaise. C'était une prestation comme ça, dans pas de bonnes conditions. Mais le concert du Nouvel An est né comme ça.
Un moment de partage, en tout cas.
Voilà, tout à fait, un moment de partage. Et puis, encore une fois, ça permettait aussi à Réole de se montrer au sein de la commune à des gens qui n'ont pas du tout l'habitude d'aller au concert. Parce que lors des vœux des municipalités, des maires, il y a beaucoup de gens des communes qui se déplacent. Et puis, l'année d'après, on a fait ça à la salle des fêtes. Et puis, d'une année sur l'autre, le maire a trouvé ça tellement bien. Puis surtout qu'il me l'a dit même lui-même, je crois que ça lui évitait de faire des discours trop longs. Et puis petit à petit, il a même pris conscience, et lui aussi il me l'a dit, il dit « mais de toute façon, les gens, ils viennent pas pour moi et parler par les discours, ils viennent pour le concert du Nouvel An ». Donc on pourrait pas faire ce concert à un autre moment, parce que ça serait pas venu, mais sur ce moment-là, c'est le début de l'année, c'est un programme convivial de fête. Bon, Strauss, voilà, on aime, on n'aime pas, il y en a qui peuvent pas en écouter beaucoup. Ça a eu l'avantage pour Réole quand même de faire un certain travail dessus, un travail de musique assez fine, assez où là on n'a pas le droit aux fausses notes, hein, enfin on n'a jamais le droit aux fausses notes.
C'est assez difficile. Hein.
C'est très difficile et tout le monde connaît, donc il suffit qu'il y ait un truc qui sonne un peu bizarre et ça y est, oh bof. Donc c'est un petit peu, c'est un petit peu des moments délicats pour l'orchestre, mais. Bon, je dis pas qu'on est venu spécialiste, hein, loin de là, mais je me rappelle du dernier concert, là, enfin du concert 2019. Bah, c'est un des meilleurs que j'ai trouvé. Voilà, il y a vraiment eu quelque chose qui s'est passé, voilà, sur tout le concert, et les musiciens, et la municipalité, le maire, et la population de Lima attend ce concert maintenant chaque année. Donc c'est devenu effectivement une institution ou quelque chose qui. Mais encore une fois. Ça a dépassé complètement mon but de départ et j'en étais le premier étonné.
Et c'était le dernier concert du Nouvel An dirigé par Gilles Parillo avec Éole.
Eh bien aussi, oui. Comme je disais tout à l'heure, on évoquait mes débuts. Ça fait une vingtaine d'années, voire même plus, 26 ans que je suis à la tête d'abord de l'Orchestre de Lima, puis ensuite d'Éole. Et ce concert-là était effectivement le dernier. Mais je sens que j'arrive au bout de quelque chose et qu'il y a besoin d'un nouveau souffle pour l'orchestre. Un nouveau souffle pour Éole. On peut dire ça comme ça.
Ça chemine depuis combien de temps, alors, ce choix?
Alors, je dirais pas plusieurs années, mais on est bien sur 2-3 ans voilà, où je commençais à me dire...
Pas faire l'année de trop?
Voilà, il y a ça.
Ça aurait dû nous mettre la puce à l'oreille, hein, au concert du Nouvel An, justement, parce que c'était, si j'ai bien compris, c'était une des rares fois où vous avez joué avec Éole.
J'ai joué quelques fois, ça m'est arrivé...
En tant que soliste,
en tant que soliste, oui, ça m'était arrivé déjà une fois ou deux. Hein. Mais là, c'était un message caché, évidemment. Hein. Je l'ai pas... Voilà, c'était... c'était fait exprès. Et j'espère, et c'est ce que... J'essaierai de faire passer comme message à mes musiciens avec mon départ, mais que continue cette ambiance, qui existe au sein des halls, et que si ça peut se distiller, se diffuser le plus loin possible, le plus longtemps possible, ça serait pour moi aussi ma dernière récompense, on peut dire ça comme ça. Mais ça, c'est le temps qui nous le dira.
Merci à Gilles Parillo, chef d'orchestre d'Éole, pour le soutien qu'il a apporté à ce projet de documentaire. Je vous donne rendez-vous demain, à la même heure, pour rencontrer les musiciennes et les musiciens d'Éole. Toujours demain, à partir de 18h, venez fêter la musique à Lima en compagnie des classes de flûte et de trompette du conservatoire, et avec Éole bien sûr.